Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce café scientifique sur le divorce. Et merci d'être là. Mon nom, c'est Colette Gremaud. Je travaille au service de presse et communication de l'Université de Neuchâtel. Et je fais partie du comité des cafés scientifiques avec lequel nous mettons sur pied ce programme qui a lieu toute l'année. Juste un petit détail technique avant de commencer, c'est que le café va être enregistré. Si vous voulez le réécouter ou si vous voulez l'indiquer à des personnes qui n'auraient pas pu venir ce soir, il se trouve sur notre site, c'est unine.ch/café scientifique, singulier et en un mot. Vous avez normalement des petits flyers sur les tables et ce site est indiqué sur les tables. Vous trouvez aussi sur ce site la revue de presse en rapport avec nos cafés scientifiques. Donc on a choisi de parler du divorce il y a une année en arrière, quand on a mis sur pied notre programme pour l'année. À ce moment-là, d'après l'indicateur de divorcialité, Neuchâtel était le canton suisse qui avait le plus fort indicateur. Donc on s'est dit, voilà, une bonne raison pour faire un café sur le divorce. Entre-temps, apparemment, Balleville nous a dépassés. On va pas se bagarrer, hein, s'ils veulent y aller. Néanmoins, c'est pas toujours très évident de s'en sortir avec ces indicateurs, de savoir qu'est-ce qui est pris en compte, est-ce qu'on prend le nombre de mariages en compte, est-ce que c'est finalement ça un taux de divorce. On aura ici M. Cotter de l'Office fédéral des statistiques qui va nous permettre de détricoter un petit peu tout ça pour y voir un petit peu plus clair. On a aussi Mme Robert Nicou qui est à l'origine de cette idée de café scientifique, puisqu'elle travaille sur une thèse de doctorat sur les macro-causes du divorce. Les macro-causes, c'est toutes les causes autres que psychologiques. Et j'aimerais bien qu'on essaye ce soir de rester sur ce thème. Bon, on verra comment est-ce qu'on arrive à s'y tenir. Madame Robert Nicou va juste devoir partir un quart d'heure avant la fin du débat pour se rendre à un colloque scientifique sur ce thème, voilà. Donc, juste pour vous prévenir. On a ensuite deux personnes qui vont nous permettre de mettre un petit peu la question du divorce dans un contexte historique et dans un contexte aussi social. On a Monsieur Gudzi Heb, qui est historien et spécialiste de l'histoire de la famille, de la parentalité et de la sexualité. Et je pense que c'est intéressant de voir aussi le divorce dans le temps. On n'a pas tout le temps divorcé comme on divorce maintenant. On divorce aussi de plus en plus. Ensuite, on a aussi quelqu'un qui est peut-être la personne qui est le plus en contact avec la réalité. C'est Monsieur Maître Nicolas Juvet, qui va pouvoir nous donner aussi quelques indications sur la loi, puisque la loi, elle a aussi une influence sur le nombre de divorces, forcément. Voilà, je remercie tous les intervenants qui ont bien voulu venir ce soir nous rejoindre et puis aborder ce thème avec nous. Je vous rappelle peut-être vite le principe des cafés scientifiques. Le but, c'est vraiment de mettre ces spécialistes en contact avec la population. Alors, on vous invite à poser les questions qui vous viennent à l'esprit. Ne soyez pas timides, vous pouvez y aller, on est là pour ça. Puis, je laisse aussi maintenant ces intervenants se présenter en quelques mots et puis nous expliquer aussi un petit peu leur recherche, leur travail. On commence peut-être par Madame Robert Nicou.
Merci. Donc, Madame Robert Nicou, je pense que l'essentiel a déjà été dit. Je travaille ici à l'Université de Neuchâtel. Je fais ma recherche de doctorat sur le divorce et plus exactement sur les macro-causes du divorce. Encore plus spécifiquement, je m'intéresse aux différences entre cantons, qui ne seront pas abordées ce soir principalement, mais principalement donc les différences de taux entre cantons et comment est-ce qu'on explique la hausse du divorce en Suisse d'une façon générale. Après, je m'intéresse aussi et surtout aux macro-causes, et donc nettement moins aux causes, on dira, plus psychologiques ou aux causes plus générales.
Oui, bonsoir, Stéphane Cotter. Je suis chef de la section démographie et migration à l'Office fédéral de la statistique, donc au sommet de la colline, là derrière vous. Je m'occupe dans mon travail de l'étude de toutes les, tout, tous les événements démographiques, entre autres le divorce, mais aussi le mariage, la nuptialité. On fait également des projections démographiques. Et on s'occupe principalement d'analyse et de diffusion, en fait, de ces domaines. Il y a une autre unité qui s'occupe de la production des statistiques. Et dans le cadre de nos activités, on est amené à calculer certains indicateurs dont on va parler tout à l'heure, je crois, les indicateurs de divorcialité et d'autres indicateurs, afin de pouvoir fournir l'information de base aux chercheurs pour étudier le phénomène.
Bonsoir, mon nom est Sandro Guzzi, Guzzi-Hebe. J'enseigne l'histoire moderne à l'université de Lausanne et j'ai beaucoup travaillé ces dernières années sur l'histoire de la famille, de la parenté et de plus en plus de la sexualité. J'enseigne l'histoire moderne, donc j'ai plutôt une perspective de longue durée, pas tellement focalisée sur le présent ou l'époque récente, mais je pense que c'est important et intéressant parce que je pense que les bases de la famille moderne que nous connaissons aujourd'hui sont vraiment posées, créées à l'époque moderne, à l'époque de la Réforme, par exemple. Et donc, c'est peut-être une perspective intéressante de voir l'évolution à long terme, j'espère.
Bonsoir, Nicolas Juvet. Donc, je suis marié, en tout cas encore marié, vu les temps qui courent. J'ai deux enfants. J'ai fait un diplôme de commerce suivi d'une maturité commerciale. J'ai fait une licence en droit à l'époque où ça s'appelait encore comme ça, et puis un brevet d'avocat. Lorsque j'ai terminé mes études, j'ai choisi en fait de faire une activité peut-être un peu particulière, c'est-à-dire que j'ai décidé d'offrir ou de dispenser des conseils juridiques à prix accessible. Et dans ce cadre-là, d'offrir des divorces à prix forfaitaire. Je m'explique, ce n'était pas par idée mercantile, simplement en tant qu'avocat stagiaire, j'avais pu constater que, bon, tout le monde le sait, qu'une séparation ou un divorce entraîne un appauvrissement du couple, hein, j'entends ça, c'est quelque chose qui est très important, mais il y avait aussi les frais du divorce eux-mêmes qui sont souvent très élevés. Et puis j'ai essayé de mettre en place un système qui permette aux gens de divorcer à un tarif accessible. Alors bien, un tarif accessible, c'est toujours discutable parce que ça reste toujours trop cher. Mais disons que c'est une formule que j'ai lancée en 2003. J'étais, sinon le seul, presque à des seuls en Suisse à le faire. Maintenant, on sait qu'il y a plein de sites qui font ce genre de choses. Et puis, bah, ça a relativement bien marché, de telle sorte qu'en 9 ans, j'ai aidé à divorcer près de 180 couples, que ce soit sur Neuchâtel, Jura, Vaud ou Fribourg. Alors bon, je me définis pas du tout comme un spécialiste du droit du divorce. Simplement, peut-être que mon témoignage ce soir pourra amener des éléments importants, notamment quant à l'état d'esprit que peuvent avoir les couples au moment où ils divorcent. C'est-à-dire que quand on divorce, ben, on choisit de divorcer, on se prononce sur le principe du divorce, puis ensuite on se prononce sur les modalités du divorce. Et moi, j'ai toujours été étonné, si ce n'est fasciné, de la facilité avec laquelle les gens prennent la décision de divorcer. Donc en fait, peut-être qu'on pourra l'aborder après, mais j'ai le sentiment qu'une des grandes causes du divorce aujourd'hui vient du fait qu'aux yeux des conjoints, le contrat de mariage n'a plus beaucoup de valeur, ou en tout cas une valeur bien différente qu'il pouvait avoir par le passé, et cela étant dû vraisemblablement à l'évolution sociale. Je vous remercie de votre attention.
Très bien. Pour peut-être commencer ce débat, je trouverais important de demander à M. Cotter si, oui ou non, est-ce qu'on est vraiment les champions du divorce ici à Neuchâtel? Alors, est-ce que c'est taux, déjà, qu'est-ce que c'est cet indicateur de divorcialité? Quel taux prennent en compte le nombre de mariages? Est-ce que tous les taux indiquent la même chose? Est-ce qu'il existe un taux de divorce, comme on voit des fois dans les journaux? Est-ce que vous pouvez nous dire?
C'est une vaste question. Je ne vais pas faire tout un cours de démographie. Ça risque d'être un peu long. Je vais essayer d'être pas trop technique, mais je serai obligé d'être un peu technique. Donc, en introduction, c'est vrai que le canton de Neuchâtel est actuellement le canton qui a le taux de divorcialité le plus élevé, enfin, qu'il l'a eu ces dernières années. Mais c'est assez récent, hein, si je regarde, j'ai un graphique devant moi. Donc à partir de, entre 1984 et 2005, ce n'était pas le canton de Neuchâtel, mais depuis 2006, le canton de Neuchâtel est le canton dans lequel on enregistre le plus haut taux de divorcialité. Alors ce fameux taux de divorcialité, comment est-ce qu'on le calcule? Alors ce qui est important en démographie toujours, c'est de rapporter le nombre d'événements qu'on observe à un nombre d'événements concernés en fait par ces observations. En fait, il faut ramener le nombre de divorces au nombre de mariages. Hein? Alors, pour calculer le taux de divorcialité, ce qu'on fait, c'est qu'on divise en fait le nombre de divorces observés selon la durée de mariage par le nombre de divorces, le nombre de mariages correspondants. Par exemple, je prends le nombre de divorces après une année de mariage et je le ramène au nombre de mariages qui ont eu lieu l'année précédente, etc. Je fais ça pour toutes les durées de mariage. Et à la fin, je somme tout ça et j'observe ce fameux taux de divorcialité. Si je peux essayer peut-être de le rendre un peu plus intelligible, ce qu'on fait par là, c'est qu'on se dit, voilà, quel serait le taux de divorce si à chaque durée de mariage, on avait la divorcialité qu'on observe une année donnée. Je veux dire, je regarde en 2010 combien de couples qui ont une année de mariage divorce, combien de couples ont deux ans de mariage divorce, etc. Et je somme tout ça. Donc c'est un peu un calcul théorique, en fait. Hein. C'est un calcul qui correspond pas à un chiffre qu'on observe, en fait. On devrait plutôt le présenter en disant, voilà, le nombre de divorces observés pour 100 mariages serait 2 si à chaque durée de mariage, la divorcialité était égale à ce qu'on observe cette année. C'est pas compréhensible, hein, c'est un peu compliqué. Je veux bien croire que c'est un peu... En général, on explique ça avec des graphiques, c'est plus simple. Mais là, sans graphique, c'est un peu compliqué. Mais en fait, ce qu'on essaie de faire, justement, c'est de donner un seul chiffre pour résumer toute une somme d'informations. En fait, c'est ça, c'est un indicateur, en fait. C'est ça qui est difficile à comprendre, peut-être. Quoi. Parce que le problème qu'on a, si vous ramenez simplement, comme je l'ai vu dans un article de journal récemment, si vous ramenez simplement le nombre de divorces d'une année à un nombre de mariages que vous observez la même année, ça ne veut absolument rien dire, en fait. Parce qu'à l'extrême, vous pouvez avoir zéro mariage cette année-là, vous aurez quand même des divorces. Donc vous auriez un indicateur qu'on ne peut pas calculer. Donc ça n'a absolument aucun sens de le faire dans ce sens-là.
Mais avec un système de calcul comme ça, si on tient compte des mariages, finalement, on a l'impression peut-être qu'il y a beaucoup de monde qui divorce, alors que simplement il y a moins de gens qui se marient, non ? C'est possible, ça ?
Ben, je pense que c'est pour enlever cet effet-là qu'on fait ce calcul, en fait. C'est exactement pour ça. Je peux faire un parallèle peut-être que vous connaissez peut-être plus facilement, c'est l'indicateur conjoncturel de fécondité, le fameux 1,5 enfant par femme. C'est exactement le même calcul en fait. Ce 1,5 enfant par femme, c'est un calcul purement théorique. Simplement, on le calcule de la manière suivante, on regarde à chaque âge de la femme combien d'enfants elles ont. Et on fait la somme de ces taux de fécondité pour obtenir l'indicateur de fécondité. Encore une fois, il veut simplement dire quel serait le nombre d'enfants qu'une femme aurait durant sa vie si à chaque âge, elle avait le nombre d'enfants qu'on observe cette année. C'est ça que ça veut dire. Donc ce qu'on essaie justement de faire avec ces indicateurs, c'est d'enlever cet effet de masse, hein, de réduire justement l'impact du nombre de mariages pour pouvoir en fait observer quelque chose.
D'accord, donc on enlève le biais qui pourrait être induit par le nombre de mariages qui diminue ou qui varie suivant l'année.
Juste pour dire, on a un autre indicateur qu'on utilise aussi parfois, on en parlera peut-être tout à l'heure, c'est simplement le nombre de divorces pour 1000 habitants. Et là, bon, c'est un indicateur qui est beaucoup moins précis parce qu'en fait, ça dépend de la structure de la population de l'endroit que vous considérez. Si vous avez une population qui est très âgée ou très jeune, vous n'aurez pas le même taux, en fait. Toutes choses par ailleurs égales, en fait.
Il y a encore beaucoup d'autres taux qui s'intéressent comme ça au divorce, ou c'est les deux principaux ?
Bon, disons qu'on a toute une série d'indicateurs qu'on calcule. On calcule, par exemple, ce que j'ai dit tout à l'heure, le pourcentage de divorce selon la durée de mariage. Enfin, il y a toute une série d'indicateurs. Mais celui qui résume le mieux la situation, c'est vraiment l'indicateur conjoncturel de divorcialité, en fait.
D'accord, merci. Madame Robert Nicoux, je vous avais demandé un petit exercice. Est-ce que vous pouvez nous dresser le portrait robot de la personne qui divorce ?
Alors oui, c'est peut-être beaucoup dire. Non, effectivement, j'ai regardé donc ce qui ressortait le plus souvent dans les différentes études et ce qui est valable pour la Suisse. Donc j'ai juste orienté ça de trois façons différentes, en allant du plus général au plus personnel, prenant d'abord l'environnement, ensuite les facteurs qui sont purement individuels et ensuite ceux qui dépendent du couple. Donc si on regarde déjà d'un point de vue de l'environnement, on divorce plus en région urbaine, on divorce plus en région romande, Tessin mis à part peut-être. Et on divorce effectivement plus dans les couples qui se sont formés les 10 dernières années que ceux qui se sont formés il y a 40 ou 50 années. Enfin, c'est l'évolution de l'époque. Au niveau individuel, il y a plus de divorces si la femme a une activité professionnelle et plus elle a un taux de travail élevé, plus le risque de divorce est élevé. Il y a effectivement un taux de divorce plus élevé au niveau des personnes qui se déclarent comme étant sans appartenance religieuse, encore que les derniers chiffres suisses datent de 2000, depuis on n'en a plus. Il y a effectivement un plus haut taux de divorce également dans les personnes, chez les personnes qui sont formées, donc principalement à un niveau tertiaire. Et on a également donc plus de divorces quand il y a des risques d'instabilité professionnelle ou du chômage à l'intérieur d'un couple. Chez les personnes qui sont jeunes, d'une façon générale, il y a plus de divorces également. On a un risque de divorce plus élevé aussi si nos parents ont divorcé. Et d'une façon très générale, on divorce plus dans la classe moyenne, donc à peu près partout dans la population, puisqu'il n'y a que les très riches ou les très pauvres où le divorce est effectivement différent et moindre. Ensuite, au niveau du couple, c'est vrai que s'il y a un écart d'âge entre conjoints qui est élevé, le risque de divorce est plus grand, surtout si la femme est plus âgée. Il y a effectivement aussi un risque plus élevé pour les mariages qui se sont contractés avant 26 ans, donc les mariages de très jeunes personnes. Et malheureusement, on n'apprend pas avec le temps, c'est-à-dire que les deuxièmes et troisièmes mariages connaissent des taux de divorce plus élevés que les premiers. C'est vrai qu'après, si on regarde purement la statistique, on divorce un tout petit peu plus si on n'a pas d'enfants du tout, mais c'est presque du 50-50. Si on a des enfants, on divorce plus au moment où le cadet a entre 3 et 5 ans ou le moment où l'aîné a 20 ans. Et si ce sont des enfants d'une autre union, là, le risque de divorce est vraiment élevé. Et enfin, on divorce plus facilement dans des couples qui sont mixtes d'un point de vue national, en particulier si la femme est suisse et que le mari est étranger. Voilà.
J'aurais juste une petite question. Quand vous dites qu'on divorce plus chez les personnes jeunes, vous entendez quoi par personnes jeunes ?
Alors en fait, c'est surtout si on rapporte le taux de divorce à l'âge, on remarque qu'il y a une tendance que plus on est jeune, plus le taux de divorce est élevé. Donc il n'y a pas vraiment une limite d'âge, je ne peux pas vous dire c'est les personnes de moins de 30 ans qui divorcent plus, mais c'est plus une question linéaire.
Monsieur Goudy-Ebb, on a j'ai lu dans certains articles qui ont été publiés en rapport avec ce café scientifique que le divorce avait aussi beaucoup augmenté depuis que les femmes avaient acquis une indépendance, notamment financière. Est-ce que vous voyez ça dans vos études ?
Oui, ça c'est quelque chose qui est très clair. Je pense que le divorce existe depuis très longtemps, depuis la réforme pour les protestants. Mais très très longtemps, il est resté quelque chose de très limité à une élite, à des personnes, et notamment des femmes qui pouvaient se le permettre. Il y a des études aussi sur Neuchâtel qui sont très intéressantes, qui montrent que jusqu'à 1800, les divorces étaient vraiment très rares et très limités aux élites. Et cela reste le cas très longtemps, et je pense qu'un facteur majeur qui a vraiment changé les équilibres dans la famille, c'est l'évolution de la situation de la femme et une certaine possibilité de la femme de sortir des rôles traditionnels. Alors, il y a plusieurs facteurs qui ont influé sur cette évolution. Un premier facteur, je dirais, c'est la machine à laver ou les électrodomestiques qui ont permis de beaucoup simplifier, beaucoup réduire le temps de reproduction, donc consacré à laver, à nettoyer, à se prendre garde des enfants. Ça, c'est un premier moment qui a changé la position. Le deuxième facteur, c'est la pilule, l'accès facile et de massif à la contraception, qui a permis à la femme de changer le rapport à la biologie. Et un troisième facteur, c'est l'indépendance économique de la femme, qui est un facteur majeur qui rend possible le divorce. Hein, parce que très longtemps, justement, le divorce était très difficile parce que la femme ne pouvait pas se le permettre. Et la plupart du cas, si je ne me trompe pas, les demandes en divorce proviennent de la femme. Et ça, depuis le XVIIIe siècle, c'est quelque chose de vraiment historique. Un autre facteur qui probablement influe, il influe sur la natalité et je présume sur le divorce aussi, c'est le taux d'éducation de la femme, le taux de formation, donc les possibilités de carrière, les chances individuelles de la femme. Donc ces étapes qui ont marqué une certaine individualisation de la vie de la femme et l'ont, ont changé le rapport de dépendance par rapport au mari, aux hommes, ont aussi facilité justement la, disons, la tendance au divorce. Ça, je dirais, ce sont des facteurs structurels. Et après, je pense qu'il y a des facteurs culturels aussi qui, dans notre société, qui sont souvent négligés. Mon collègue disait avant que la valeur du mariage a diminué. Et je pense que c'est effectivement quelque chose qui est observable et qui est lié à une fausse idée que notre société... une idée très partielle que notre idée se fait de l'amour et de l'affection conjugale, par exemple, en idéalisant des modèles, disons, cinématographiques, d'un amour très passionnel, très érotique, qui est quelque chose de très récent historiquement, qui ne correspond pas à ce qu'on entendait par amour conjugal ou amour familial dans l'histoire, et qui est quelque chose de très précaire, parce que c'est très focalisé sur la jeunesse, sur l'hétérosexualité, ce que l'on voit dans la littérature, dans le cinéma, et c'est quelque chose qui, par nature, dure très peu et qui doit se transformer. Les psychologues nous disent que pour durer longtemps, les sentiments, l'affection entre les conjoints doit se transformer et qu'il doit y avoir une coévolution des conjoints. Et ça, c'est quelque chose que notre culture médiatique, les images qui nous sont dispensées largement, tend à mettre en ombre et à oublier. Et je pense que par là, on a une culture problématique de l'amour et de la famille.
Juste par rapport à cette... Est-ce qu'on voit une date à partir de laquelle les divorces augmentent vraiment? Est-ce que c'est les années 70, par exemple? Vous avez parlé avant de la machine à laver, de la pilule.
Je pense que oui, c'est les années 60, avec la remise en cause de beaucoup, la diffusion de la pilule, c'est les années 60 aussi. Je pense que les années 60 sont vraiment une période charnière où beaucoup de modèles sociaux qui étaient dominants pour la génération de nos pères ou de mes pères, donc la génération née avant la guerre, dans des sociétés encore plutôt traditionnelles, avec l'importance de l'agriculture, où ces valeurs entrent vraiment en crise et d'autres modèles commencent à s'imposer au niveau social.
Je précise peut-être juste, d'une façon européenne, c'est effectivement l'année 65 qui est vraiment la charnière. Alors en Suisse, on est légèrement plus tard, c'est l'année 67 où vraiment on commence gentiment à monter. Et pour appuyer effectivement, donc il y a la thèse que ça vient beaucoup de la libération de la femme. Je pense que vous l'avez dit à la fin aussi, que ça vient beaucoup de cette libération des normes culturelles qu'on a eues d'une façon générale autour des années 60-70. Et je pense aussi que c'est un corollaire de l'égalité qui a enfin été reconnue. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'avant, bon, les femmes effectivement pouvaient pas demander le divorce. Les hommes avaient souvent aucune raison de le demander, vu qu'il était parfaitement accepté et toléré socialement qu'ils aient des maîtresses.
Alors, j'entends, je partage l'avis de Monsieur Gudzieb. Comme je l'ai dit, les quelques couples que j'ai été donné à rencontrer, en fait, comme je l'ai dit. On se prononce d'abord, le couple se prononce sur le principe du divorce. Est-ce qu'ils veulent divorcer, oui ou non? Puis ensuite, on traite des modalités du divorce, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va divorcer. À ce stade-là, on traite de questions comme l'attribution du logement familial, de la liquidation du régime matrimonial, mais aussi du sort des enfants, l'autorité parentale, le droit de garde, le droit de visite, mais encore d'autres aspects comme la LPP, bref. Mais généralement, avant de passer à ces questions techniques, on pose la question concrète, hein, j'entends aux clients, est-ce que vous êtes d'accord de divorcer? Eh bien, généralement, c'est fascinant parce que les gens, bon, ils ont pu réfléchir avant, mais sont tout de suite d'accord de divorcer. J'entends, je prends un exemple, ça m'arrive assez fréquemment, j'ai des gens qui viennent, qui me disent, bon, ben, écoutez, voilà, donc je reçois le couple en général parce que je fais de l'amiable, hein. on s'entend plus trop bien, on conçoit mal de continuer à vivre ensemble. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Quels sont nos droits? Donc en gros, il faut un peu réfléchir pour eux. Si je traduis la question, c'est si on se sépare, quels sont nos droits? Si on choisit de divorcer, quels sont nos droits? Et puis on en arrive à des questions pécuniaires. Et puis alors que le couple n'avait pas du tout décidé de divorcer en venant, hein, alors qu'ils n'avaient pas encore pris la décision commune, après explication que, par exemple, une séparation judiciaire par des mesures protectrices d'union conjugale serait une procédure, donc qui aurait un coût, la réaction généralement c'est « Ouais, mais alors si dans 6 mois ou une année on décide de divorcer, on doit refaire une procédure. Donc ça va nous coûter de l'argent, ils se regardent, mais bah, alors on divorce. » Donc j'entends, la question est souvent abordée de manière aussi légère que ça. Et puis moi, c'est ce qui me fait dire, en fait, c'est qu'on ne peut pas analyser les macro-causes du divorce sans analyser en amont les causes du mariage. Pour quelles raisons les gens sont mariés? Parce qu'avant, finalement, alors bon, ça, c'est pas de mon répertoire, mais je peux donner... certains arguments, effectivement, que lorsqu'on se mariait, par le mariage, on obtenait un certain soutien financier de son conjoint, un certain soutien moral. Ça pouvait apporter aussi de l'intégration sociale. Il n'y a pas si longtemps que ça, une femme passée un certain âge qui n'était pas mariée pouvait être considérée comme une vieille fille. J'entends, je ne dis pas qu'il n'y avait pas d'amour à cette époque-là, mais j'entends le mariage... revêtaient certains intérêts, réellement. Donc je ne dis pas que c'était des mariages d'intérêts, mais il y avait beaucoup plus d'intérêts, à mon sens, qu'il y en a maintenant. C'est pourquoi, quand les gens prennent la décision de divorcer, finalement, leur contrat de mariage ayant beaucoup moins de valeur, ben, ils décident de le casser beaucoup plus facilement, comme n'importe quel contrat qui a peu de valeur. Donc c'est vrai que après, ben, j'entends c'est l'évolution des mœurs, c'est l'émancipation de la femme, j'entends fort heureusement. Donc il y a beaucoup de causes, mais je pense qu'il faut s'attacher aux causes du mariage pour bien comprendre également les causes du divorce. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter.
Si quelqu'un veut poser une question, oui, madame, oui. Attendez, madame, il y a le micro qui va arriver.
Oui. J'aimerais juste réagir à ce que Maître Juvet a dit. Moi, je suis aussi avocate, j'ai aussi divorcé avec 4 enfants. Moi, je n'ai jamais vu un couple ou une personne seule qui vient de gaieté de cœur faire un divorce. Alors, tout à fait, qui vient de gaieté de cœur en joyeusement faire un divorce. Il y a toujours une souffrance derrière, il y en a toujours un qui souffre. Vous allez en audience, il y a des gens ou des femmes ou des messieurs qui ne dorment pas depuis une semaine ou deux, tellement ils sont angoissés à l'idée de divorcer. Moi, j'en ai jamais vu un qui rigolait en divorçant. Contrairement à ce que vous pouvez soutenir, j'entends, c'est pas de gaieté de cœur. Je trouve que les gens prennent la décision de divorcer. Non,
alors il y a toujours une charge émotionnelle. Alors ça, oui. Mais alors j'ai bien précisé que voilà. Je faisais du divorce amiable. Hein. Oui, donc c'est pas du divorce
amiable.
Conflictuel.
Oui. Mais aussi en amiable. Oui.
J'entends, je dis pas que c'est pas douloureux. Je dis simplement que la décision est prise relativement facilement. Et puis que, ben j'entends, on voit bien par là que les intérêts qui pouvaient nourrir le mariage avant, en tout cas de mon point de vue, hein, c'est vraiment mon point de vue, ben ont quelque part un peu disparu. J'ai le sentiment pour ma part que le mariage actuel, d'où la douleur, hein, j'entends au divorce, est principalement nourri par l'amour de deux êtres. Donc c'est ça, à mon avis, la cause du mariage, la principale cause actuelle, c'est que deux êtres s'aiment, veulent fonder éventuellement une communauté conjugale et décident de se marier. De telle sorte que si finalement il n'y a plus d'amour, ben,
on change,
on passe à autre chose. C'est-à-dire que ces fameux intérêts qui avant auraient pu nous dissuader de le faire, c'est-à-dire ouais, mais on va perdre un soutien financier, on va perdre un soutien moral, on risque d'être mal vu sur le plan de la réputation, j'entends de l'intégration sociale, ben, ce qui aurait pu empêcher de divorcer avant, ces motifs-là, j'ai le sentiment ben, qu'ils ont pas plus court, mais moins court. C'est ça.
Mais financièrement, souvent, quand même, il y a une perte énorme par rapport à l'un des conjoints. Mais je rejoins aussi M. Goudzi dans le sens que les jeunes actuels, où j'entends c'est ceux qui se marient, ont beaucoup l'idée du prince charmant, de la vie, l'idéal du mariage, de l'amour. C'est fou, ça me frappe parmi mes jeunes, parmi les jeunes que je connais, l'idéal du prince charmant ou d'une vie super, quoi. Ils n'ont plus tellement cette idée de contrat de mariage ou de vie à deux.
Oui, ça, je pense que c'est vraiment un problème culturel et aussi d'éducation, dans le sens où, justement, on a l'impression que l'amour doit être le sentiment pur. Et certains sociologues théorisent ça, que l'amour, justement, se base sur la relation plus pure. Alors que, justement, cette relation pure est un stade de la relation conjugale et qu'une famille, aujourd'hui comme ailleurs, est une petite entreprise, en fait. Dès qu'il y a des enfants, c'est une petite entreprise économique et que, je pense, les jeunes générations ne sont plus du tout préparées à ça. Hein? Au fait que l'amour, c'est très bien, mais ça doit baser sur des intérêts et des communautés pour pouvoir résister. Et on a entendu que justement les couples où les différences culturelles sont très grandes sont moins stables. Du point de vue historique, je pense qu'il y a un malentendu sur la question de l'amour. C'est-à-dire que justement avec cette idéalisation de l'amour romantique, passionnel, on a tendu à dire voilà, il ne doit pas y avoir d'intérêt matériel, sinon ce n'est pas le vrai amour. Et tout ce qui était lié à des intérêts matériels n'était pas le vrai amour. Alors, dans l'histoire, le mariage était fondé sur beaucoup d'intérêts matériels, mais ça n'excluait pas des formes d'affection et d'amour très fortes. Simplement, c'était un amour, une affection différente. C'était un amour qui, des fois, les gens disaient qu'il devait croître, grandir après le mariage, dans la relation, dans le temps. Et c'est une autre conception de l'amour que la nôtre. Et les historiens, longtemps, ont eu de la peine à comprendre cela. Mais je pense que, justement, cette idéalisation de l'amour romantique, de la passion et, dans une certaine mesure, de la sexualité, contribue à une faiblesse culturelle par rapport, qui fragilise les liens entre hommes et femmes, et peut-être en partie les liens en général, les liens sociaux en général.
On va peut-être pouvoir mettre tout ça sur la faute à Rousseau. Madame Revernicou.
Oui, je voulais juste encore réagir à ce que Madame Fassbinde et Maître Juvet avaient dit, et aussi un peu à Monsieur Goutti. J'admets que je suis un peu en contre-avis. Je ne pense pas que le contrat de mariage ait perdu de sa valeur. Par contre, je pense qu'il s'est fondamentalement changé, il s'est fondamentalement transformé. Parce que quand on voit au niveau donc autant des récits ou au niveau aussi des représentations qu'on peut avoir, quand il y a divorce, ça reste toujours et encore un échec. Même si après, très bien vécu, à l'amiable, et puis on s'est bien arrangé, et peut-être même que les futurs conjoints sont copains entre eux, oui. Mais le fait qu'on ait mis fin à un mariage, ça reste émotionnellement et socialement un échec. Donc je ne pense pas qu'il y ait une valeur qui soit perdue, par contre elle s'est énormément transformée. Et là où je rejoins M. Goutti complètement, c'est qu'en somme, le mariage n'a plus aucune nécessité. J'entends, je pense que vous serez d'accord, mais clairement longtemps, le mariage a été une nécessité sociale. C'est parce que sinon, seul, on s'en sortait ni financièrement, ni au point de vue de la santé, on ne pouvait pas faire face, parce que l'unité de base était la famille et non pas l'individu. Et ça a fondamentalement changé maintenant.
Une petite question, M. Oui, Cotter.
J'aurais une question à poser, parce que ce qui m'étonne, c'est quand on regarde les statistiques, ce qu'on constate actuellement, c'est que le taux de divorcialité augmente, surtout parce que les mariages de longue durée se rompent. C'est-à-dire que là où on augmente, où la divorcialité augmente le plus, c'est dans des durées de mariage de 20 ans ou plus. Et comment vous expliquez ça avec vos théories ? Parce que finalement, après 20 ans de mariage, on n'est plus vraiment encore dans la fougue des premières années. Donc comment vous expliquez que c'est ces mariages-là qui se rompent maintenant si vous dites que la cause principale, c'est la fin de l'amour romantique ou de l'amour idéalisé?
Oui, naturellement, il y a plusieurs facteurs. Et il y a un facteur qui est un facteur démographique. Hein, c'est-à-dire que, justement, au XVIIIe siècle, après 20 ans de mariage, très probablement, l'un des conjoints était mort. Hein. Donc, il n'y avait pas de divorce. Hein. Donc il y a naturellement un facteur démographique qui change la durée des choses. Mais je pense aussi que la valeur du mariage est en train de se transformer, mais je pense que la tendance, on va vers un autre équilibre qu'on n'a pas encore trouvé, mais la tendance c'est d'avoir le mariage comme liaison justement à temps, liaison temporaire, et non plus comme liaison Peut-être aussi parce que justement les conditions démographiques ont changé. La condition de la femme a changé et cette égalité, c'est quelque chose qui remet en question fondamentalement la famille. La famille moderne est née dans des conditions où la femme était considérée inférieure, plus faible et qui devait être protégée. C'est dans cette situation et dans cette culture que la famille moderne, avec la réforme et la contre-réforme au XVIe siècle, prend forme. Or, ces conditions ont changé de façon dramatique pendant ces dernières années, 30 ans peut-être, quelques décennies.
Et après, c'est juste une petite précision. Je pense qu'en plus des facteurs démographiques, il y a tout l'idéal qui veut qu'on puisse maintenant faire deux ou trois vies en une parce qu'on devient plus âgé. Et je pense que ça répond en partie à la question pourquoi les couples de longue durée finissent par divorcer. Alors ils recommencent une deuxième vie.
C'est un sujet là que je ne partage pas tout à fait votre avis, puis peut-être que ça va faire un peu réagir, j'imagine. Alors bon, encore une fois, j'ai une activité particulière et je fais du divorce amiable. Hein. Je n'ai pas à faire... Bon, le divorce amiable, ça comprend souvent quand même de la négociation, ça prend du temps, il ne faut pas croire que ça se fait comme ça. Hein. Mais j'entends, ce n'est pas litigieux, comme si on allait au tribunal et puis qu'on se tirait dessus. En revanche, moi, j'observe vraiment quelque chose, en tout cas au sein de ma pratique, mais alors c'est plutôt chez les couples assez jeunes, et puis là, je peux donner un âge, hein, j'entends, c'est-à-dire jusqu'à... 30-35 ans, c'est que le mariage, le divorce, est vécu de moins en moins comme un échec, contrairement à ce que vous avez dit, de plus en plus comme une option, voire une phase transitoire. D'ailleurs, j'entends dans certains pays comme les États-Unis, actuellement, il y a tout un business qui se développe là-dessus, c'est-à-dire qu'on fait des célébrations de divorce, et non plus... Donc, comme on pourrait faire une célébration de mariage, mais on invite les gens qu'on avait invités au mariage pour le divorce, et puis on fait des listes pour les divorcés, c'est-à-dire que chacun va devoir se reconstituer un domicile séparé, donc tu auras besoin de quoi, d'une commode, etc. Et puis les gens se disent, en fin de compte, alors bon, ça on me l'a pas dit si clairement, mais j'entends, c'est quand même une évolution qui existe, c'est de dire, ben voilà, on a vécu 15 ans ensemble, c'était fort sympa, on a eu de belles... Voilà, c'était chouette, mais l'amour n'est plus. Maintenant, on va passer à autre chose, et puis on le fait en de bons termes. Et puis, à la limite, même d'officialiser la chose. Donc, c'est vrai que le mariage n'est pas forcément vidé de sa substance, qui s'est modifié. Bon, je maintiens quand même que l'institution du mariage a moins d'importance aux yeux des parties, quand même. Mais j'entends de moins en moins le divorce est vécu comme un échec. Alors ça, c'est une tendance, en tout cas par rapport à ce que j'ai pu lire, hein, j'entends, et puis par rapport à ce que j'ai pu constater encore une fois dans ma pratique, c'est une tendance qui est évidente, quoi.
On est peut-être en train de passer la période la plus difficile maintenant avec une conception dans notre tête du divorce qui est encore celle de nos parents avec un contrat qui est censé durer et puis des mœurs qui ont évolué. Donc aussi... Monsieur, une petite question. Vous attendez peut-être juste le micro, comme ça nous permet d'enregistrer aussi votre question. Merci.
Je veux peut-être parler comme les gens de mon âge, mais vous n'avez pas fait allusion à la notion de responsabilité dans laquelle nous, on était encore un peu éduqués. C'est-à-dire qu'on sait depuis longtemps que l'amour passion ou l'amour idéal ne dure pas très longtemps. Enfin, les sociologues américains nous disent depuis longtemps que c'est de l'ordre de 4, 5, 6 ans, enfin, quelque chose comme ça. Vous avez beaucoup parlé des responsabilités financières, parce qu'effectivement, ça engendre des difficultés énormes. Mais moi, ce qui me frappe, mais pas sur des bases statistiques, c'est d'observer des jeunes couples avec enfants divorcer avec tant de facilité, voire un à deux enfants. Et là, moi, mon interrogation, c'est peut-être l'épouse a-t-elle un très bon job, elle pourra faire face matériellement sans son mari ou avec l'aide de celui-ci à l'éducation des enfants. Néanmoins, les conséquences sont certainement regrettables et pourtant on le fait, me semble-t-il, avec beaucoup de facilité. Et la deuxième question, mais enfin qui va ensemble, c'est sur cette augmentation des divorces que l'on constate sans doute, est-ce que ça a une conséquence assez importante sur la natalité, dont on se plaint quand même que dans beaucoup de pays occidentaux, elle est plutôt pas assez haute que trop haute. Merci.
Pour les enfants, je pense que Madame Robert-Nicou, vous avez quelque chose d'intéressant à nous dire.
En fait, c'est vrai que pour les enfants, je pense qu'il y a eu un renversement des idéaux. C'est qu'on divorce plus malgré le fait qu'on a des enfants, mais on divorce aussi souvent parce qu'on a des enfants. C'est-à-dire, bon, premièrement, il y a toute l'idée du « c'est mieux de divorcer que de rester ensemble et de se disputer », toujours pour le bien de l'enfant, hein, soyons d'accord. Mais après, il y a aussi toute cette tension entre le fait qu'en tant qu'individu, on a des désirs individuels, j'entends de loisirs, de temps libre, ou bien même de carrière, qu'il devient forcément plus difficile de réaliser si on a des enfants et qu'il faut en plus trouver des organisations faramineuses dans tous les sens. Et les tensions qu'il y a ou qui se créent dans le couple suite à ça sont aussi une raison de divorce. Donc je pense que c'est plus le malgré enfants, mais à cause des enfants. Bien que les enfants ne soient pas la cause, soyons clairs. Hein. C'est ce qui va avec les enfants qui crée les tensions à l'intérieur du couple, souvent.
Ouais. Monsieur Cotter, peut-être juste pour la deuxième partie de la question, puis on viendra ensuite chez Maître Juvet.
Juste peut-être par rapport au lien entre fécondité et divorcialité. Moi, j'ai pas d'études en tête, mais ce qu'on constate actuellement dans la plupart des pays européens, c'est que la fécondité est de moins en moins liée au mariage. En Suisse, c'est encore très lié. En Suisse, on a seulement 18% de naissances hors mariage. C'est très peu en comparaison européenne. La France est à passer 50%, par exemple. Et les pays nordiques sont autour de 80%, 70-80% de naissances hors mariage. Donc, je ne sais pas si on peut faire de lien entre la divorcialité et les mariages. Je n'ai pas l'impression que les choses sont très liées. Parce qu'on a aussi des gens qui divorcent et qui refont une deuxième famille. Donc, bon, il faudrait étudier la question peut-être plus en détail, mais je n'ai pas de référence.
Maître Juvet, vous vouliez intervenir ?
Oui, en fait, moi j'ai un peu le sentiment que, moi je crois que peut-être que je vais enfoncer une porte ouverte, mais les obligations qui découlent du mariage, qui sont quand même nombreuses, donc on constitue une communauté familiale, j'entends on a des enfants, donc il faut travailler, payer les charges, bref, c'est quand même passablement d'obligations. Ça se traduit en fait par une perte de liberté, d'individualité, et puis j'ai le sentiment que c'est pas du tout dans l'air du temps. J'entends dans l'air du temps, à grand renfort de publicité, hein, j'entends que sur n'importe quel support, à la télé, tous les jours, du matin au soir, on nous vend le droit au bonheur, le droit à l'autodétermination, le droit, on a droit à tout. Et puis finalement, le mariage, dans ses conséquences, peut constituer peut-être dans la tête des gens une entrave à cette liberté-là. Donc j'ai le sentiment que l'institution du mariage n'est plus dans l'air du temps, et puis que, ben, peut-être pour rebondir sur ce que vous disiez avant, c'est que, ben, dans ce sens-là, il se peut que les enfants soient devenus justement une entrave à ça. Alors avant, on restait peut-être ensemble parce qu'on avait des enfants et puis qu'il, ben, il fallait les élever, et puis qu'en fait, maintenant, les enfants posent pas des problèmes, mais j'entends, pose énormément d'obligations qui ne sont pas dans l'air du temps. Voilà.
Monsieur Gouzier. Oui.
On va beaucoup diminuer le taux de divorcialité.
C'est sûr que la première cause du divorce, c'est quand même le mariage. Hein. Et s'il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de divorce. Hein. Ça, c'est vrai qu'en termes statistiques, c'est assez clair à ce niveau-là. Quoi.
Oui, je pense que la question des enfants est très, très centrale, en fait, parce que, justement, c'est avec la naissance des enfants que cette relation pure devient une entreprise économique. Et aujourd'hui, elle est sujette à des tensions énormes. Je pense que ce qui a changé aussi, c'est que jusqu'aux années 70-80, dans la conception de l'économie et de la société, la famille était considérée comme une ressource économique, une famille stable, une ressource économique et sociale. Depuis, on a commencé à se rendre compte, et cela en relation aussi au changement de la condition de la femme, que ce n'est plus la famille, la base économique, mais c'est l'individu. Et on a commencé à prêcher l'individualité, la formation, la carrière, la flexibilité géographique, la mobilité, des choses, des ressources économiques qui sont très difficilement conciliables avec une famille, en fait. Et de ce moment-là, je pense qu'il y a un clivage, un conflit entre famille, dans le sens famille avec enfant, et économie qui est très, très grave. Et la crise démographique est une expression de ce conflit, je pense. Maintenant, il serait intéressant de voir s'il y a des politiques qui peuvent pallier un peu à ça. Dans le domaine de la natalité, il y a quand même des mesures politiques qui ont une certaine influence des politiques de la famille. En France, par exemple, on a une natalité qui est beaucoup, dans des pays scandinaves aussi, beaucoup supérieure à la nôtre ou à d'autres pays. Donc là, il y aurait des politiques qu'on peut appliquer. Il serait intéressant de voir s'il y a des politiques qui peuvent soutenir la famille aussi au niveau de la cohésion de la famille.
Vous voulez intervenir, Madame Nicot?
Oui, en fait, juste une précision. Effectivement, le cas de la France est très intéressant parce que chez eux, la politique a clairement fonctionné puisqu'ils ont atteint le stade du renouvellement. Ils sont à 2,1 enfants par femme. Enfin, ça fluctue légèrement, mais ils y sont. Donc, effectivement, ça, c'est un point qu'on peut marquer. Par contre, je tiens à le dire, effectivement, je ne sais plus, je crois que c'est M. Cotter qui l'a soufflé tout à l'heure. Il faut quand même vraiment avoir conscience qu'en Suisse, on a une vision extrêmement traditionnelle de la famille. Et on a des comportements familiaux et démographiques aussi très traditionnels. Et ça, c'est une chose, je pense, qu'il faut vraiment pas oublier dans les études, parce que du coup, je rebondis sur ce que Maître Juvet disait, les études américaines sont rarement transférables telles quelles, parce qu'on a vraiment pas du tout la même vision de la famille. Et déjà, rien que les études qui sont faites dans les pays européens autour de nous, on a de la peine à les transmettre telles quelles, parce qu'on a justement cette représentation de la famille.
Seulement, les effets de mode américains finissent souvent par arriver en Europe, peut-être avec un peu de retard, mais j'entends, on est quand même fortement influencé par leur comportement.
Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu quelle est l'image de la famille en Amérique, par exemple, ou en Amérique du Nord Qu'est-ce qu'il y a de différent avec l'image qu'on a, nous, par exemple, l'image traditionnelle suisse?
En fait, je pense que l'image traditionnelle reste la même partout, ce qui est différent, à mon avis, c'est la force avec laquelle chez nous c'est imprégné dans nos têtes. Et donc il y a un jeu que je joue très souvent avec les personnes que je connais. Bon, avec vous ça va peut-être être un peu plus difficile, mais si je vous dis la famille, la toute première image qui vous vient à l'esprit, sans filtre, sans réfléchir, sans rien, chez la plupart des personnes, je dis bien la plupart, pas tout à fait toutes, c'est un père, une mère et deux enfants, et souvent un garçon et une fille. On peut même aller plus loin, ils ont souvent les cheveux blonds ou clairs. Et ce qui change, c'est pas que dans d'autres pays, ils n'ont pas une vision similaire. J'entends, j'ai vu des publications de l'INSEE, donc à Paris, qui reprend cette image aussi. Mais ce qui est frappant chez nous, c'est à quel point elle vient vite, cette image, à quel point elle est imprégnée, et à quel point encore, quand même, une bonne partie de notre système politique, notre système économique et de nos comportements démographiques sont reliés à cette image-là, et pas à une autre. Et je pense que c'est là où c'est fondamentalement différent en Suisse par rapport aux autres pays. Ou peut-être l'image est là aussi, mais moins prégnante.
Oui, Monsieur Cotter.
Juste un petit complément par rapport à ce que vous avez dit par rapport à la fécondité plus élevée. Ce qu'on constate actuellement, c'est que les pays européens où la fécondité est la plus élevée actuellement, c'est les pays où l'égalité homme-femme a été la mieux réalisée, où est la plus avancée actuellement. Quoi. Et je veux dire, ça rejoint aussi un peu ce qu'on disait par rapport au divorce tout à l'heure. Quoi. Il y a vraiment des liens entre le divorce, entre l'évolution des vies familiales, entre les conditions cadres qui entourent la famille aussi, qui sont très importants. Quoi. Et pour revenir encore à une chose, quand on disait que vous avez parlé de la chute de la fécondité. C'est vrai que la fin du baby-boom, c'est aussi les années 65-70. C'est exactement quand le divorce a commencé à augmenter. C'est quand les valeurs familiales, les valeurs traditionnelles ont commencé à exploser. C'est à ce moment-là également qu'on a de grandes transformations démographiques.
Juste, oui, tout en sachant que le baby-boom était assez clairement un effet de la Deuxième Guerre mondiale, quand même.
Il y a eu deux baby-booms. On en a deux de baby boom. Il y en a un pendant la Deuxième Guerre mondiale en Suisse, et puis il y en a un au début des années 60, en fait.
C'est vrai que. Une question? Oui. Le micro va arriver, c'est tout devant.
Merci. Concernant l'image que vous disiez, que elle était ancrée chez les Suisses, est-ce que ça reste une image, ou est-ce que c'est vraiment une réalité, ça se traduit par une réalité par la suite?
Alors, si on regarde le taux de fécondité, je vais vous dire non, il n'y a pas deux enfants par ménage. Mais Je pense que c'est vraiment beaucoup plus sur la représentation qu'on a et sur ce vers quoi on tend, donc ce qu'on aimerait pouvoir réaliser. Et bon, là, c'est au-delà un peu des macrocauses, mais je pense aussi que comme on n'y arrive pas, ça crée des tensions entre un idéal qu'on aimerait beaucoup avoir, ou en tout cas qui nous semblerait normal d'avoir, et ce que la réalité nous dit, c'est-à-dire qu'on n'y arrive pas. Et je pense que là aussi, après, il y a frustration et tension.
J'avais juste une deuxième partie de la question qui s'adressait à la même personne. Vous dites qu'il y a des différences entre pays. Justement, vous faites les différences entre cantons. Est-ce qu'elles sont notables, justement, entre, par exemple, Neuchâtel et puis Fribourg ? Je me questionnais là-dessus sur la notoriété.
Alors, entre Neuchâtel et Fribourg, peut-être moins évidentes qu'entre Neuchâtel et Oury.
D'accord, oui.
Mais c'est très intéressant parce que justement ça compare deux cantons de religions différentes. Et là, je crois que dans votre thèse de doctorat, vous mettez en évidence le fait que la religion, il y a aussi de grandes différences quoi, entre les cantons.
Bon, assez clairement, hein, j'ai commencé mon étude parce que j'ai découvert qu'il y avait, alors quand j'avais regardé, Neuchâtel était je crois à 59 et Oury était à 18, quelque chose de ce goût-là. Et je me suis vraiment dit, waouh, il y a une énorme différence. Alors ensuite, c'est vrai qu'à première vue, la comparaison est assez clichée. Hein. On a les catholiques et les protestants, on a les rurales, on a les urbains. On a quand même assez logiquement les romans et les germanophones, encore qu'un peu moins évident quand il s'agit des cantons-villes. Mais les différences sont flagrantes et elles sont assez, entre guillemets, faciles à expliquer.
Oui, monsieur.
J'ai juste une question à poser principalement à madame Nico et puis monsieur Juvé. Je m'appelle Rafat Chaban, je suis tunisien d'origine, ça fait 5 ans que je suis en Suisse, ingénieur, papa d'une fille de 2 ans et demi et marié depuis 3 ans. Donc, sur le thème de l'enfant, par rapport à cette image que la société, ou ce stéréotype d'image que la société renforce et puis essaie d'alimenter, j'ai un problème, je vais choquer certains peut-être par la franchise, j'ai un problème fondamental avec ma femme, c'est qu'elle veut absolument le deuxième enfant. Et ce deuxième enfant, moi j'y suis opposé fondamentalement pour cause de... parce que notre couple n'a pas eu le temps, n'a pas eu les jalons nécessaires pour être validé, pour être renforcé. Puis j'estime qu'avoir un deuxième enfant, là ça rejoint la thèse de un enfant, on ne renforce pas le couple, on a besoin d'un couple fort pour avoir un enfant, va... probablement et certainement, selon moi, détruire notre famille. Donc là, je suis en plein cœur de problématique de divorce. C'est pour ça que je suis, entre autres, là. Il y a la charge émotionnelle qui est, je pense, perceptible. Je pense que même si c'est un divorce à l'amiable, il y a toujours une charge émotionnelle qui est présente. Et puis, par rapport aux moyens financiers, là aussi, c'est un catalyseur, je pense, de divorce, au moins... pour mettre les points sur les i pendant ce genre de décision. Donc, ce n'est pas forcément une réponse, ce n'est pas forcément une question, mais c'est un témoignage qui est réel, instantané, et puis chaud. Merci.
Mais c'est nous qui vous remercions. Vous avez des chiffres, Mme Robert-Nicou, sur le nombre d'enfants? Est-ce qu'on voit l'augmentation des divorces avec le nombre d'enfants qui augmente dans la famille?
Alors, en fait, non. Non, c'est clairement, en fait, plus il y a d'enfants, moins il y a de divorces. Et vraiment, dans les familles de 4 enfants et plus, ça devient superbement rare. Mais inversement aussi, parce que les familles de 4 enfants et plus, il n'y en a presque plus. Et ensuite aussi, parce que c'est vrai que quand même, malgré l'émancipation des femmes et leur indépendance financière, 4 enfants à assumer seuls, c'est vraiment rude.
Il y a une question tout au fond, là, peut-être.
J'ai une remarque, puis une question à M. Götzi. J'ai travaillé un peu dans le domaine de médiation conjugale et familiale, surtout dans le milieu des mariages mixtes. Mais même cette notion de mariage mixte, elle peut concerner les jeunes ou bien les plus grands. Et j'ai remarqué qu'il y a un problème interculturel, surtout pour les couples qui ne sont pas des jeunes. Puis la deuxième chose, c'est cette question de responsabilité que monsieur a relevée avant. Je pense qu'il y a des jeunes, après le mariage, ils continuent à vivre comme des célibataires. Puis à un moment donné, ils vont mettre fin à leur couple à leur mariage. Et puis, il y avait même des témoignages qui disent que voilà, j'ai pas pensé que le mariage est comme ça, que la responsabilité, elle est énorme. Et pour la question, c'est cette question de valeur. Moi, je parle de valeur humaine, aussi morale. Cette question de laisser passer l'orage, s'il y a un conjoint qui passe par une crise, et ne pas tomber dans cette idée de guerre des roses ou coup et riposte. Voilà, c'est la question, c'est est-ce qu'il y a une crise d'absence de valeur? Merci.
Je crois qu'il n'y a pas une absence de valeur, mais je pense que nous sommes dans une situation où les valeurs se transforment très rapidement. Et depuis quelques décennies, justement, les valeurs liées à la liberté, entre guillemets, et à l'individualité, à la réalisation individuelle, ont nettement augmenté, ont nettement pris de l'importance par rapport à d'autres valeurs de responsabilité collective ou de cohésion collective. Mais je pense qu'il y a justement des bases matérielles. Pour chaque valeur culturelle, il y a aussi des structures sociales et des valeurs matérielles. Est-ce que, justement, ce qui est important, c'est ce qu'on a dit déjà avant, qu'une famille, pour durer longtemps, je pense, doit avoir justement quelque chose en commun, hein, un projet ou des valeurs implicites en commun. Et ça devient de plus en plus difficile parce que, justement, on a la tendance à avoir des existences toujours plus individualisées. Et notamment, ce n'est pas la faute à la femme, hein, mais c'est le coup peut-être de la transformation sociale, notamment dès que cette individualisation est devenue réelle avec des possibilités individuelles pour les femmes. Et là, le fait de les structures, les contraintes aussi qui causaient ou encourageaient la cohésion sont en crise. Et donc, on est dans une période où on est en train, j'ai l'impression, de rechercher de nouvelles valeurs et on n'a pas encore trouvé un équilibre. On a perdu un équilibre traditionnel qui était celui de la génération justement de nos pères, mais on n'a pas encore trouvé un nouvel équilibre dans une situation stabilisée avec des valeurs partagées. J'ai l'impression que c'est un peu notre problème actuel.
J'ai entendu tout à l'heure que dans les pays nordiques, il y avait à peu près 80% des couples qui ne se mariaient pas. Est-ce que ces couples qui ont des enfants restent stables? Ça me semble important par rapport à l'éducation des enfants, mais je ne sais pas si on a des statistiques. C'est-à-dire, de fait, ils sont quelque part des couples quasi mariés, sans vouloir le dire.
Je n'ai pas de données comme ça en tête, mais d'après ce que j'avais lu, ces couples sont relativement stables, oui. En fait, ce qui paraît étonnant, mais en fait, si, ces couples sont stables. En fait. Pardon ? Oui, je ne sais pas. Oui, peut-être, c'est ça. Non, mais finalement, il y a beaucoup de ça. Vous savez qu'il y a, par rapport à vos explications, là, il y a un démographe australien qui avait fait une étude où il listait en fait les valeurs qui sont demandées en fait pour vivre en société, pour vivre en couple, et les valeurs qui sont maintenant demandées par la société. Donc on demande quoi aux gens maintenant? Il faut être performant, il faut être flexible, et toutes ces choses-là qui sont en complète contradiction avec ce qu'on demande à quelqu'un qui doit vivre en couple, où il faut être altruiste, où il faut être attentif aux autres, etc., etc. Et il expliquait, lui, les transformations, je m'en familiale, avec ce choc de valeurs, quelque part, quoi, en fait.
J'aimerais peut-être dire peut-être juste une chose, c'est que moi, personnellement, quand je me suis marié, en fait, j'ai pris l'engagement vis-à-vis de ma femme de passer ma vie avec. J'entends, je me suis engagé à ça. Pourtant, je ne suis pas spécialement croyant, mais j'entends, pour moi, c'est ça, c'est un petit peu, on va passer notre vie ensemble, et puis c'est un contrat très fort. Jusqu'à une certaine époque, on ne pouvait pas se défaire de ce contrat, à moins que l'un des conjoints ait commis une faute, et puis ça donnait lieu à des procès terribles, parce qu'il fallait prouver la faute, et puis on s'en envoyait plein la figure. Ce droit-là a changé, je dirais le nouveau droit, qui est quand même vieux de 12 ans maintenant, permet le divorce sur requête commune. Et puis en fait, on peut... entre la notion d'engagement à vie et puis après ce qu'a permis le droit, c'est-à-dire quand même le divorce pour cause de faute, et puis maintenant le divorce sur requête commune, on voit que le mariage, j'entends le contrat de mariage, se précarise de plus en plus. D'ailleurs, bon, alors, je ne pense pas du tout que ce soit à l'étude, mais on a pu lire ça et là, en tout cas moi, des gens qui proposaient carrément des contrats de mariage à durée déterminée, renouvelable de 5 ans en 5 ans. Alors, ce n'est pas d'actualité, mais j'entends, encore une fois, c'est dans l'air du temps. Et puis, c'est pour ça que la question des valeurs, je ne sais pas quelle place elle a réellement dans ce cadre-là, dans cette conception-là. Encore une fois, je pense vraiment que les gens qui décident de se marier, c'est parce qu'ils s'aiment. J'entends après, on peut donner n'importe quelle définition de l'amour, mais on est bien ensemble, on s'entend bien, et puis on veut fonder quelque chose, c'est ça. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire, entre l'engagement à vie, et puis jusqu'où on en est maintenant, du moins sur le plan juridique.
Hein. Juste avant, M. Cotter aimerait intervenir, on passe ensuite dans le public.
Alors, juste une chose par rapport au droit, je trouve que c'est intéressant, mais il me semble qu'en fait, finalement, le droit, c'est simplement la traduction dans des lois des valeurs du moment, en fait, de la société. Le droit, il n'est pas inné quelque part. Il évolue avec un petit peu de retard. Ouais, alors il prend un peu de temps, tout à fait. Mais je pense qu'en étudiant l'évolution du droit, on peut tout à fait traduire l'évolution, en fait, de la société par rapport au divorce, quelque part.
Là, j'aimerais peut-être juste rebondir là-dessus quand même, parce que c'est pas tout faux. Hein. J'entends sous l'ère du divorce fautif. J'entends, après, bon, c'était principalement des pratiques cantonales. Il y avait certains cantons qui étaient plus libéraux que d'autres. Mais, par exemple, à Neuchâtel, dans les années 90, se pratiquait déjà le divorce amiable avant même que ça ait été consacré par la loi. Hein, c'est dire s'il y avait quand même une pression ou une certaine demande de la part des couples qui voulaient divorcer. Alors après, ben, j'entends, ça s'est toujours plus assoupli, tous les cantons n'avaient pas la même pratique, mais effectivement, j'entends, la loi s'est adaptée à une demande de la part des couples mariés. Donc c'est assez exact, en tout cas de ce point de vue-là, quoi.
Madame, dans la salle, vous avez une question ?
En fait, je voulais remercier monsieur de son témoignage tout à l'heure, le monsieur là, voilà. Et puis, en fait, en vous écoutant, quand vous parlez des jeunes couples, des très jeunes couples mariés depuis peu de temps, qui en fait, au premier conflit, au premier désaccord, choisissent le divorce, je pense que de plus en plus, en fait, on oublie que, ben, d'abord, que la relation, donc le mariage, est une co-construction et qu'en fait le conflit peut être facteur de croissance, quoi. Même dans ce cas sûrement difficile et douloureux, comme monsieur a pu en témoigner, je pense que c'est une façon de revoir le couple et c'est pas forcément la fin de quelque chose. Il y a tout un tas de possibles. Et j'ai l'impression que c'est ça aujourd'hui, en fait. Dès qu'il y a un désaccord, on stoppe, quoi, et puis on a l'impression qu'on peut pas aller au-delà, quoi, alors que ça peut déjà faire grandir le couple de faire face à ce conflit, quoi, d'aller s'y confronter et d'aller se frotter à l'autre et à cette problématique. Ensuite, je voulais aussi juste dire une chose. Quand je vous ai entendu tout à l'heure parler, enfin, au début, du mariage comme une institution qui pouvait, à l'époque, protéger la femme par rapport peut-être à la situation sociale. Non, M. Gouty, à un moment donné, a dit quelque chose un petit peu de cet ordre-là. Je n'ai pas pu m'empêcher, en fait, de penser aussi au phénomène d'emprise que ça a pu générer dans certains couples. Et de ce point de vue-là, je ne peux pas envisager le divorce comme un échec social ou émotionnel, en fait, systématiquement. Effectivement, c'est douloureux, c'est souffrant. Il y a vraiment quelque chose de fort et d'intense, mais ça peut être aussi vu comme une libération importante, quoi, du point de vue de la femme en l'occurrence. Ça peut être aussi inversé, puisqu'il y a aussi des situations d'emprise de l'autre côté, quoi, dans l'autre sens. Voilà, je voulais juste dire ça.
Merci, oui. Je tiens à préciser que j'ai dit que la famille moderne, justement, a été proposée ou imposée dans un contexte où la conviction était que la femme était inférieure, qu'elle était faible et qu'elle était inférieure à l'homme physiquement et intellectuellement. Ça, c'était la base. Et que donc, la femme avait besoin de protection. Ce n'est pas mon idée, hein, c'est l'idée de l'époque moderne. Et je pense que, justement, il faut vraiment tenir compte du fait que nous vivons aujourd'hui avec une institution qui est née dans ces conditions, avec ces prémices-là. Et que maintenant, les prémices ont fondamentalement changé. Et il y a un énorme enjeu dont nous n'avons pas encore vraiment parlé, mais je pense que c'est vraiment très important, c'est l'histoire, la question de la sexualité. La sexualité a été aussi longtemps vécue dans un contexte fondamentalement différent du nôtre, lié justement dans une situation d'absence de contraception efficace et accessible. La sexualité était quelque chose de dangereux, à contrôler et à gérer soigneusement, pas seulement pour des raisons morales, mais aussi pour des raisons biologiques de reproduction. Tout cela a changé de façon dramatique avec justement la diffusion de la contraception de masse et justement l'évolution de la condition de la femme. J'ai l'impression que aujourd'hui nous vivons une grande confusion avec ce nouveau rôle de la sexualité, parce qu'en principe nous avons dans les médias par exemple une omniprésence de la sexualité, la célébration du corps, de la beauté, de l'être sexy. De l'autre côté, on a des idées très traditionnelles et anciens régimes de fidélité, et j'ai l'impression que c'est vraiment une grande confusion, qu'il y a une énorme exigence de réalisation sexuelle, mais que probablement, très souvent, pas très, dans des termes pas très réalistes. Je crois que c'est un grand enjeu, très difficile, très délicat, mais qui influe aussi sur ce phénomène des divorces.
Je voudrais... Oui, monsieur, le micro arrive, d'accord. Ok, alors madame, et puis ensuite monsieur.
J'aimerais juste faire un petit témoignage sur trois points qui m'ont touchée. J'ai une situation un peu particulière. J'ai divorcé il y a un an et demi. Je suis rentrée en Suisse après 20 ans de vie à l'étranger. J'étais avec mon ex-mari à l'étranger pendant 16 ans de mariage. Lui était homme au foyer et moi je travaillais. Nous avons deux enfants qui ont 10 et 12 ans aujourd'hui. C'est un peu compliqué. Mais une fois que nous sommes rentrés en Suisse, il y a eu cette question des valeurs qui ne se posait plus à l'étranger en fait. Et c'est comme si au moment où nous sommes rentrés, lui, pour retrouver ses valeurs, il a eu besoin de fuir la famille quelque part pour retrouver ses marques, parce qu'il n'a pas pu accepter cette valeur que moi j'avais de la famille et de voilà. Donc je pense que cette notion de valeur, c'est intéressant de l'observer. Quand on vit à l'étranger, on n'a plus le même regard sur cette valeur. Et c'est vrai qu'une fois qu'on rentre chez soi, il y a d'autres critères qui entrent en ligne de compte. Et puis il y avait un deuxième point aussi, cet équilibre entre homme et femme. Donc moi j'étais au travail et lui à la maison avec les enfants. Et ça c'était difficile parce qu'on est une génération charnière où les choses ne sont pas encore vraiment placées. Et on le voit aujourd'hui avec nos enfants, c'est un mélange entre le besoin de sécurité. On dit toujours que sécurité, père égale sécurité et mère égale amour. Et avec cette notion de, voilà, qui donne la sécurité, qui donne l'amour, et finalement, les enfants sont un peu perdus là-dedans. Heureusement, on arrive à trouver l'équilibre dans une garde partagée, mais c'est pas facile pour eux. Et puis, la troisième chose, c'est, dans 16 ans de mariage, on a eu une sexualité épanouie, et ce qui nous a pas empêché de divorcer. Voilà.
Merci beaucoup pour ce témoignage. C'est très intéressant parce que vous rejoignez complètement Madame Robert-Nicou avec cette idée de l'image très traditionnelle et puis qui est aussi apparemment très fortement impliquée dans nos petites têtes ici en Suisse. Monsieur,
je rebondirais peut-être juste avec une remarque. Et alors, je ne sais pas si dans votre cas ça a été ça, mais en Suisse, effectivement, l'homme au foyer, alors il est si rare que statistiquement, il est quasi inexistant. Et c'est vrai que il y a souvent, enfin, quand on regarde justement par rapport à cette image ou cet idéal qu'on a en tête, un homme au foyer n'est pas reconnu ou très peu. Et donc, effectivement, ça peut aussi amener tout simplement à l'attention, à un besoin de reconnaissance.
Cette fois, monsieur.
Une question. Si on part en Suisse, quelles sont les raisons claires et récurrentes du divorce? Et puis, est-ce que une raison telle que une incompatibilité entre les deux composantes de la famille primaire, du noyau de la famille, donc homme-femme, c'est une raison tangible socialement, sociologiquement et juridiquement? Donc quand on se rend compte, après 3 ans ou 4 ans de vie commune qui étaient chargés par du troubleshooting, par des choses du quotidien, par études, par un temps qui n'est pas du tout consacré principalement au couple, aux connaissances intrinsèques de la personne, et puis quand on se rend compte, après 3 ans, 4 ans, qu'il y a des fondamentaux qui ne jouent pas entre les deux personnes concernées, bien sûr, là, je parle de fondamentaux, ça peut être l'axe intellectuel, l'axe valeur, l'axe religion, l'axe éducation et culturel. C'est pas des choses qu'on peut forcément quantifier, qu'on peut forcément mettre des mots sur ces choses-là, mais certainement ça se traduit par des symptômes tels que le quotidien, tu fais pas le ménage, tu t'occupes pas de l'enfant, t'es pas assez beau, t'es pas assez présent, etc., etc. Donc ces raisons-là qui sont fondamentales de la séparation, comment on peut les classer, comment on peut les interpréter dans la société suisse, du point de vue sociologique et juridique. Et puis, une dernière remarque, anticiper ou prendre la décision d'un divorce dans ce cas de figure-là, pour le but de, ok, on a échoué dans notre mariage, mais vaut mieux réussir un divorce pour le bien des enfants, pour le bien et la sérénité de l'après-mariage, comment ça peut être interprété avec ce genre d'argument?
Madame Robert-Nicou, est-ce que vous avez encore le temps ou... Alors, ça sera la toute dernière question.
Bon, moi, je pense que ce que vous dites est fondamentalement vrai. J'entends, enfin, peut-être que Monsieur Juvet, avec ses clients, aura un autre avis. Mais c'est sûr que si on demande aux gens pourquoi vous divorcez, c'est ce genre de petites choses qui reviennent. J'entendais encore dernièrement quelqu'un me dire, voilà, si on a divorcé, c'est parce que j'ai remarqué que moi, j'étais du matin et elle du soir. Alors voilà, c'est sûr que ce genre de choses, moi, je ne peux pas les mesurer. Après, dans les théories sociologiques que j'ai à disposition, pour moi, c'est clairement le primat de l'individu sur le couple, là où on a besoin de pouvoir se réaliser soi-même, être fidèle quelque part à son soi qui devrait être libéré de tout rôle ou de toute contrainte. Pour moi, je le vois clairement dans ce genre de petites choses. Et après, bien sûr, aussi, il y a toutes ces contraintes ou toutes ces obligations comme... Je ne sais plus qui disait, maintenant je suis navrée. Toutes ces obligations qui viennent de l'extérieur et dont on n'accepte peut-être pas le poids. Parce que justement, on a cette vision du bonheur, de la liberté, du fait qu'en plus, ce que je trouve tragique moi personnellement, que si on n'est pas heureux, c'est notre faute. Parce qu'en fait, on pouvait faire tous les choix qu'on voulait et on est parfaitement libre de changer.
Ça répond en partie.
Alors écoutez, j'entends... Quelle qu'en soit la cause, s'il y a une mésentente durable et profonde, ben c'est, à mon avis, évidemment une cause de divorce. Hein. Et c'est une cause même très fréquente. J'entends, quand les gens viennent me voir, ils s'entendent plus sous rien. Et puis, quand je dis c'est durable, c'est qu'il ne faut pas que ça date d'hier, mais ça fait des mois ou des années que ça dure. Et puis, quand c'est profond, c'est-à-dire que ça porte sur des sujets importants. Ça peut être la religion, hein. Ça peut être la vision que l'on a de l'éducation des enfants. Donc j'entends vraiment, s'il y a une mésentente sur des points importants et que cette mésentente est durable, ben, bien évidemment que c'est une cause de divorce. Et puis, après, comment est-ce que ça peut être vu après par la société, après divorce ? Eh bien, écoutez, ça, je ne suis pas forcément habilité à répondre. La seule chose que je puisse dire, c'est que si effectivement la mésentente était durable et profonde, eh bien, souvent, les enfants en sont affectés. Et passer un certain cap, peut-être vaut-il mieux divorcer que rester ensemble pour le bien-être des enfants. Mais ça, j'entends, il appartient aux époux de le jauger. Donc c'est un aspect subjectif. J'entends, personne ne peut répondre à cette question pour vous.
Tout à fait. Il y a souvent le terme « laisser le temps, attendre, laisser la chance au couple, laisser la chance, regarder l'enfant entre deux ». Mais je pense, du moment qu'on arrive au bilan d'un côté ou d'un autre, que la thèse de l'incompatibilité du couple, fondamentalement parlant, je pense que l'aspect « temps » va être un effet pervers, ouais, par alors, rapport à tout ça.
J'ai un petit peu touché à la médiation dans le cadre de Médiane. Hein, j'ai suivi quelques cours avec Isabelle Bierry. Pas de la médiation familiale, mais la médiation générale. Hein, c'est vrai que souvent, l'incompréhension... j'entends, on parle d'une chose, l'autre il comprend autre chose, et puis on est toujours au décalage, et puis finalement on n'arrive jamais à s'entendre, peut-être avant de constater l'échec, peut-être faut-il passer par de la médiation familiale, justement qu'on ait une personne qui n'est pas un arbitre, qui n'est pas un négociateur, mais une personne qui met en œuvre un processus de communication qui permet aux gens de s'exprimer sans agresser l'autre, et puis finalement, dont le but est d'amener les parties à trouver une solution entre elles.
J'entends. Maître, juste une seconde, comme madame doit partir, on va...
En fait, je réponds peut-être juste à votre deuxième question. Le coût du divorce pour le bien-être des enfants, c'est socialement très reconnu. Et j'entends, c'est vraiment aussi... Bon, je pense que monsieur Juvet sera d'accord avec moi, le bien-être de l'enfant est fondamentalement un concept assez difficile, mais au niveau social, c'est quelque chose qui est très reconnu, et souvent même, on vous dira, c'était mieux de divorcer si vous vous entendiez pas. Donc c'est quelque chose qui va dans l'air du temps. Et donc, sur ce, je m'excuse de devoir vous quitter, mais je vous souhaite une bonne fin de soirée.
Merci. Et nous, on vous remercie d'avoir pu venir malgré vos... Enfin, d'avoir casé notre petit café scientifique dans vos obligations. Merci beaucoup. Merci. Alors, il y a une question juste ici, et je ne sais pas si vous voulez. Oui, monsieur.
À propos du bien-être des enfants après le divorce, nous avons une cousine qui s'occupe de ça à la Casa Santa Elisabetta à Lugano. Elle s'occupe de l'ascolto des enfants jusqu'à l'âge de 10 ans, entre autres, et aussi du droit de visite. Chaque semaine, elle vit la même scène pour les parents qui ne veulent pas se voir, qui apportent l'enfant à la Casa Santa Elisabetta. La mère a dit à l'enfant pendant toute la semaine combien le père était méchant, etc. Et à ce moment-là, l'enfant ne veut pas quitter la mère. Il dit « je ne veux pas te quitter, je veux rester avec toi », etc. Au cours d'une heure, une fois que la mère est partie, l'enfant se calme, on s'occupe de lui, etc. Au bout d'une heure, arrive le père. À ce moment-là, l'enfant dit « papa, papa », il court dans les bras du papa. Et ils vivent un week-end magnifique avec le papa. Et cette scène se répète toutes les semaines. Donc là, on peut se demander si ces enfants sont vraiment beaucoup plus heureux après qu'avant.
Alors, écoutez, je me permets de répondre brièvement. Si les parents s'entendent aussi mal, alors même qu'ils sont séparés et puis que le droit de visite, j'entends, est réglé de cette manière, j'ose pas imaginer comment ils s'entendraient entre eux en habitant sous le même toit. Donc je ne suis pas sûr qu'on épargne à l'enfant des scènes de ce type en refusant le divorce. Hein, il faut, c'est vrai que là on parle de beaucoup de causes, hein, j'entends intellectuellement on cherche à, on se réfère aux statistiques, la sociologie, l'histoire, etc. Mais il ne faut quand même pas perdre de vue qu'il y a des causes de divorce qui sont l'ivrognerie, qui sont l'adultère, qui sont la violence, qui sont la violence à l'égard des femmes, j'entends la violence à l'égard des enfants, et quand même, dans bien des cas, un divorce s'impose. Pour le bien-être, j'entends, des enfants. Donc il n'y a pas simplement des cas où on se dit, bon, ben, pour notre bien-être, on se sépare. Il y a quand même des cas plus impératifs. Et dans ces cas-là, au moins, pour moi, alors sans aucun doute, le divorce s'impose pour le bien-être des enfants.
Bon, on n'est pas en train de faire un café scientifique sur le pour ou le contre du divorce. Hein. C'était vraiment l'idée de départ. C'était bien de rester sur les statistiques, d'essayer de voir les macro-causes. Et ma foi, c'est clair que comme c'est un sujet émotionnel, c'est normal qu'on parte aussi sur des questions plus psychologiques qui n'étaient pas le but au départ. Peut-être ce qui est important de dire, c'est aussi que chaque divorce, à mon avis, est un cas particulier. Et c'est vrai que là, c'est même des fois à se demander si avec les statistiques, on arrive à prendre tous ces cas particuliers et à dire quelque chose. Mais je crois qu'il y avait une question dans le... Monsieur, merci.
Oui, juste une remarque, c'est pas si ça va tout à fait dans le sens, c'est plus préoccupé parfois par la natalité que par le divorce, mais ce que je retiendrai de cet intéressant séminaire, c'est quand même, moi je partais du point de vue que les enfants étaient une raison de rester ensemble, et puis dans le fond, je pars avec la presque convaincu ou en tout cas acquis à l'idée que les enfants sont largement une cause de divorce, et le témoignage de monsieur le Tunisien va dans ce sens. Et ma deuxième conclusion, mais on a passer un peu comme chat sur braise sur l'aspect religion, mais ça montre quand même que ces valeurs dont on a fait référence souvent, elles ne sont plus les valeurs de la religion. Et il y a des exemples, sans entrer dans les individualités, comment expliquer, moi j'ai toujours été frappé du fait, prenons deux exemples, quand j'étais à l'université, le pays qui avait le plus faible taux de natalité, c'était la Suède. Donc plutôt protestant. Et maintenant, je ne pense pas que ça a changé dans les toutes dernières années, et c'est très largement l'Italie et l'Espagne, Italie catholique, qui a fourni un nombre impressionnant d'Italiens dans le monde entier, et qui pourtant, maintenant, comment on explique un phénomène aussi brutal et impressionnant de la baisse de la natalité dans les pays catholiques, où le divorce est théoriquement... encore interdit. Donc voilà, c'est une question importante.
Alors, monsieur Guzzi, Hem, s'il vous plaît.
Je crois que la religion joue un rôle. Et je crois qu'il y a la tendance en Suisse au fait que les protestants divorcent plus souvent que les catholiques, et les protestants ont une autre tradition avec le divorce. Je pense que le poids de l'histoire en ce sens est important. C'est vrai que pendant les dernières décennies, on a eu un inversement des tendances traditionnelles, mais je crois que dans le cas de l'Italie, de l'Espagne aussi, ce n'est pas un hasard que ce sont aujourd'hui des pays en crise profonde. Et l'Italie a vécu 20 ans de Berlusconi, c'est un symptôme majeur d'une crise et d'un modèle social qui est problématique, notamment pour la famille et pour les jeunes, parce que avec un taux de chômage élevé de la jeunesse, avec des possibilités économiques limitées, les familles traversent une période de crise économique. Donc il y a des contraintes économiques qui sont, je pense, importantes. Oui, mais à ce moment-là, c'était encore une société agraire, donc très ancrée dans l'agriculture, où l'enfant était encore une ressource utile économiquement. Il n'était pas encore seulement un poids, mais il était une aide dans l'agriculture, dans le travail, et il était la fonction traditionnelle de l'enfant dans des sociétés de ce type, est aussi la sécurité sociale pendant la vieillesse. Tout ça, avec les changements dramatiques et l'urbanisation dramatique des dernières décennies, a fondamentalement changé. Et pour les familles urbaines, pour les familles qui sont dans le tertiaire ou qui sont déracinées de l'agriculture, la fonction de l'enfant a fondamentalement changé. Je pense que c'est vraiment un facteur très important. Après, il y a toujours d'autres causes sociales, culturelles qui sont...
Juste Monsieur Cotter qui voulait ajouter un complément.
Juste une chose. En tant que démographe, donc on n'a pas tout le background des historiens, mais actuellement, les démographes ont tendance à expliquer la baisse de la fécondité dans les pays comme l'Espagne et l'Italie par l'organisation très traditionnelle encore de la société. C'est-à-dire que l'égalité homme-femme n'est pas encore vraiment réalisée. Donc il y a une absence de perspective pour les femmes, par exemple. Donc les femmes sont mises devant un choix. Avoir des enfants ou faire autre chose. Pour l'instant, actuellement, le choix va plutôt dans le sens de ne pas faire d'enfants, mais de développer une carrière, de faire des études, etc. Alors que dans les pays nordiques, l'égalité est beaucoup mieux réalisée. Il n'y a pas besoin de faire un choix entre vie professionnelle et vie familiale. On peut faire les deux, en fait. Les conditions cadres, l'organisation de la société fait que les femmes, surtout, n'ont pas à choisir, en fait. Elles peuvent réaliser les deux conjointement. Et c'est comme ça qu'on explique principalement les différences entre les pays nordiques et les pays maintenant du Sud, qui étaient avant des pays à haute fécondité.
Il y avait une question, monsieur.
Une question pour monsieur Guzzi. Est-ce que, dans l'histoire, est-ce qu'on a déjà subi d'autres crises au niveau familial ? Parce que là, on a l'impression que, enfin, moi, en tant que jeune, j'ai l'impression de vivre dans un monde de crise, autant financière que politique, que familiale. Est-ce que ça s'est, sur le point de vue sociologique, ça s'est déjà produit, en fait, dans l'époque moderne ?
Je ne pense pas dans ces formes et dans ces dimensions. Donc, il y a eu déjà beaucoup de transformations de la famille qui ont été perçues comme des crises. Pendant l'industrialisation, par exemple, avec les femmes qui allaient travailler dans l'industrie, on disait c'est la fin de la famille, c'est la crise morale et comme ça. Et ça ne s'est pas produit. Et je pense qu'aujourd'hui aussi, Philippe Ariès, en fait, a dit, un grand historien de la famille, a dit mais le vainqueur à long terme de l'histoire n'a pas été l'individu, a été la famille. Et je pense qu'aujourd'hui, on a d'un côté une crise de la famille traditionnelle, mais la famille comme structure, même si elle n'est pas formalisée par un mariage formel, elle reste le modèle dominant. Hein. Les gens qui divorcent, s'ils peuvent, se remarient, peut-être pas sans mariage officiel. Il y a des couples qui vivent ensemble, qui élèvent des enfants sans être mariés, mais la famille reste le modèle de référence. Donc, encore une fois, je pense que c'est une crise profonde, mais la crise profonde est historiquement unique, c'est vraiment le taux de fécondité ou de natalité qui a plongé. Et la société occidentale qui ne se reproduit plus. Et là, je pense qu'il y a un problème fondamental. Je pense que c'est vraiment les premières sociétés dans l'histoire, après la préhistoire, qui ne se reproduisent plus démographiquement. Donc là, on a vraiment quelque chose qui change, qui s'est transformé à un niveau très profond.
D'accord, merci.
Oui, alors peut-être monsieur ici, et puis on finira avec monsieur là-bas.
Ça serait très intéressant de savoir qui demande le divorce en majorité. Est-ce que ce sont les hommes ou est-ce que ce sont les femmes ?
Monsieur Cotter.
Alors, j'avoue, je n'ai pas de chiffres devant moi, mais d'après ce qu'a dit Mme Stettler, si j'ai bien compris, c'était les femmes en général, d'après, majoritairement.
Alors,
les femmes.
Historiquement, c'est très clair. Depuis qu'il y a divorce, depuis le 18e, autour de 70% des demandes en divorce,
ce sont des femmes. Je vous ai posé la question parce qu'à mon âge, ça paraît impensable. Et pourtant, c'est vrai. Mais merci beaucoup.
Plus lâche aussi.
Mais bon, il faudrait voir, les femmes font peut-être aussi beaucoup de choses les premières. Hein. Il n'y a peut-être pas que demander le divorce, mais ranger les affaires dans l'appartement. Ou...
Juste une rectification à monsieur. La cause de mon potentiel divorce, ce n'est pas l'enfant, c'est l'incompatibilité de mon couple, à mon sens, qui n'a pas pris le temps de mûrir, de se construire, de se comprendre mutuellement. par manque de temps, par manque de disponibilité, de préposition. Et dans ce sens, je conclue par le fait que la tradition du fiançailles, de la période pré-mariage, de concubinage, à mon sens, c'est quelque chose de fondamental. La famille commence par deux, et il faut que ces deux-là soient sûrs et bien en connaissance de cause l'un de l'autre, de l'aspect logistique, l'aspect opérationnel, émotionnel et tout. Donc ça, c'est juste ma... Merci.
Oui.
Mais je crois que ce que disait monsieur tout à l'heure est très important aussi, c'est que la relation doit aussi évoluer et se transformer. C'est-à-dire après 3 ans ou 4 ans, ça doit devenir autre chose, en fait, qui sera plus ce qui était au départ. Et ça, je crois que c'est quelque chose de très important qu'on oublie peut-être beaucoup et souvent. Quoi, en fait.
Il nous faut malheureusement clore ce café, mais je vous invite, il y a une machine à café dehors et vous pouvez voilà, continuer le café de façon pratique. On peut continuer de discuter encore les personnes qui sont intéressées. Je propose, on a une très bonne transition qui est offerte pour notre prochain café le 25 avril sur la sexualité. Donc on va continuer un petit peu le débat. C'est la sexualité chez les animaux et aussi chez les humains. Mais il y aura entre autres la sexualité des amibes, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est le moment ou jamais. Je remercie profondément tous les intervenants ici. C'était vraiment un super débat. Il y avait des choses vraiment très, très intéressantes. On a quelques pistes sur le pourquoi est-ce qu'on divorce. On ne sait toujours pas pourquoi on divorce à Neuchâtel. Bon, ça restera un mystère. Hein. Voilà, je vous invite aussi. Je vous souhaite un bon retour chez vous et je vous remercie pour votre présence. Au revoir. Bonne soirée.